Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 de La vie est un conte intitulé Au cas où. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Clémentine pour son message. Elle m'écrit « J'aime beaucoup ce podcast, un vrai moment de prise de recul qui me nourrit professionnellement et personnellement. » Merci beaucoup pour ce retour. Le conte que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'appelle « Au cas où ». Il est issu du recueil « Le cercle des menteurs, tome 2 » de Jean-Claude Carrière. Il était une fois, deux fois, maintes fois, deux hommes qui sont perdus dans un désert. Ils marchent depuis des jours, sous un soleil ardent. Ils n'ont rien à manger, rien à boire. Ils sont épuisés, ils tombent, ils se relèvent, ils font quelques pas, ils retombent encore. L'un d'eux porte un sac sur son épaule, et ce sac semble contenir quelque chose. « Qu'est-ce que tu as dans ton sac ?» demande l'autre homme à plusieurs reprises. « Rien, rien !» répond obstinément le porteur de sac. Il tombe encore une fois, il se traîne. Ils ne peuvent plus se relever. La même question revient. « Mais qu'est-ce que tu as dans ton sac ? Dis-moi » L'homme au sac finit par avouer. « C'est une pastèque !»«
Une pastèque ? Une vraie pastèque ?»«
Oui !»«
Mais vite ! Il faut la découper ! Il faut la manger !»«
Ah non ! » dit l'homme au sac, qui ne peut presque plus parler, et dont les yeux sont fermés.
« Non, je la garde !»«
Tu la gardes pourquoi ?»«
Au cas où !»
dit-il en mourant. La tâche à laquelle nous devons nous atteler, ce n'est pas de parvenir à la sécurité. C'est d'arriver à tolérer l'insécurité. Eric Fromm. Ce conte est très court et pour autant je le trouve très riche en termes d'enseignement. J'aime beaucoup ces contes où la chute paraît presque absurde au premier abord. Et puis en y regardant de plus près, en voyant comment ça peut faire écho dans nos propres vies, on peut se prendre soi-même le doigt dans le pot de confiture en flagrant délit de comportement similaire. Ne vous est-il jamais arrivé de vous accrocher à votre pastèque à un moment où cela devenait urgent pour vous d'initier un changement et justement de la lâcher ? Combien de fois préférons-nous la souffrance d'une situation à l'inconfort d'un changement ? Me vient par exemple à l'esprit les personnes qui sont mal accompagnées dans leur couple, mais qui préfèrent l'inconfort de cette situation au fait d'avancer avec leur peur dans l'inconnu et peut-être de vivre la solitude, le célibat pour un certain temps. Et si je ne trouvais pas mieux ? Et si je restais définitivement seule ? Ou encore ces personnes qui ne s'épanouissent pas dans leur CDI et pour qui la chanson par exemple de Starmania « J'aurais voulu être un artiste » résonne particulièrement. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire « Au moindre inconfort, lâchez tout et lancez-vous dans l'inconnu, loin de là ». J'ai personnellement travaillé pendant 15 ans dans le secteur de l'assurance et je ne crois pas qu'on travaille dans ce secteur par hasard et les profils ceinture et bretelles comme moi y sont nombreux. J'interroge juste notre capacité à sentir à quel moment l'inconfort de la situation devient plus lourd que l'inconfort du changement, pour éviter de se retrouver dans les mêmes situations que le porteur de sac de notre histoire, qui en perd la vie. On voit bien qu'il s'agit là d'un cas extrême, et si on transpose dans notre univers, ce serait peut-être pour éviter un burn-out, une dépression, une maltraitance conjugale ou tout simplement de passer à côté d'une autre histoire de vie qui pourrait mieux nous convenir. Alors d'abord, d'où vient cette peur de l'inconnu ? Cette peur du changement est naturelle. L'homme est partagé entre un besoin de préservation et un besoin d'évolution. Or, tout corps vivant tend à l'équilibre par un phénomène qu'on appelle l'homéostasie. Notre corps, par exemple, va tendre à un équilibre de température intérieure d'environ 37 degrés. Peu importe que dehors il fasse un froid glacial, une canicule ou une température d'une vingtaine de degrés. Il va s'ajuster pour maintenir son point d'équilibre à 37 degrés. Donc, tout homme est partagé entre un besoin de préservation et un besoin de conservation et va tendre à l'équilibre entre ces deux niveaux. Ainsi, si on appuie sur le besoin d'évolution, cela va réveiller le besoin de préservation. C'est ainsi que quand une ou un de vos amis se plaint du comportement maltraitant de son conjoint ou de sa conjointe et que vous lui dites « il ou elle ne te mérite pas, quitte-le ou quitte-la et vis ta vie », la personne en face d'un coup se met à minimiser. « Oh, tu sais, il ou elle n'est pas si terrible. Il ou elle a aussi de bons côtés. » Le système cherche l'équilibre. Et c'est ce que certains vont appeler la résistance au changement. Mais c'est une erreur de croire que les gens sont résistants au changement. Ils ne sont pas résistants au changement. La résistance au changement, en fait, est la résultante d'une interaction. C'est parce que quelqu'un pousse sur l'évolution que la préservation s'exprime. Donc, paradoxalement, quand on veut produire du changement, il faut nourrir également le besoin de préservation en parlant de non-changement, en parlant de tout ce qu'il est précieux de garder. Par ailleurs, notre peur du changement est renforcée par notre culture et notre conditionnement. Nous sommes abreuvés continuellement de ces petites phrases que nous entendons au détour des conversations et qui peuvent freiner nos désirs d'évolution. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il ne faut jamais lâcher la proie pour l'ombre. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, etc. Des phrases qui nous invitent à l'immobilisme. Et puis, quand on regarde le monde, on s'aperçoit que les 30 glorieuses sont loin derrière nous. Et depuis le premier choc pétrolier de 1973, les crises économiques, sociales et monétaires se succèdent. L'éclatement de la bulle Internet en 2001, la crise des subprimes en 2008, et maintenant la crise économique et sanitaire du Covid, etc. Bref, le climat n'est pas spécialement sécuritaire et il est tout à fait normal et censé de s'accrocher bien fort à sa pastèque. Quand on pense à un changement important, comme une séparation ou une réorientation professionnelle, de nombreuses peurs s'éveillent et pléthore de « et si » se réveillent. Et si je restais célibataire? Et si je n'étais pas capable de me lancer? Et si ça se transformait en échec? Et si je n'arrivais pas à vivre de cette activité? Et s'il n'y avait pas de marché pour mon idée? Etc. etc. Les peurs de l'échec, peur de l'inconnu, peur du manque se déchaînent et peuvent nous maintenir accrochés à notre pastèque, alors qu'en même temps, nous sentons bien que notre soi-disant situation confortable actuelle n'est pas si confortable que ça. Et même que la situation devient carrément toxique pour nous. On se meurt d'ennui dans un travail ou au contraire, on souffre d'une surcharge de travail non raisonnable et qui commence à avoir des répercussions sur notre santé et nos relations, un stress qui impacte notre vie personnelle. Si vous êtes dans cette situation de sentir que votre cœur vous porte ailleurs, que cette envie se fait de plus en plus insistante, que votre quotidien devient de plus en plus lourd à porter, mais que vos peurs du changement vous assaillent dès que vous envisagez un autre possible, alors l'outil que je vais vous proposer aujourd'hui peut vous aider à assouplir un peu les choses et dégonfler un peu vos peurs. Cet outil est tiré du très bon livre de Tim Ferriss, Les outils du géant. Alors tout d'abord, je vais vous inviter à penser à un projet de changement important qui vous habite depuis un certain temps, mais pour lequel vous n'osez pas vous lancer. Quand vous avez ce projet en tête, la première étape, ça va être de définir votre cauchemar, c'est-à-dire la pire chose qui puisse arriver si vous faites ce que vous envisagez de faire. Quand vous envisagez de faire ce que vous avez envie, ce projet-là, quels sont les doutes qui surgissent, les peurs qui se font entendre, les fameux « et si » dont j'ai parlé, qui vous viennent quand vous pensez aux grands changements que vous pourriez ou que vous voudriez faire ? Visualisez-les dans les moindres détails. Est-ce que ce sera la fin de votre vie ? Quel serait l'impact permanent, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 10 ? 10 étant le maximum, un impact terrible. Si vous faisiez ce que vous envisagiez de faire, est-ce que ce serait vraiment définitif ? Quelles sont les probabilités que ça arrive vraiment, comme ça ? Ce pire cauchemar. Comment vous pouvez éviter que la situation devienne cauchemardesque ou du moins la rendre moins probable, moins impactante? Donc une fois que vous avez envisagé le pire, deuxième étape, quelles mesures pourriez-vous prendre pour réparer les dégâts ou remettre les choses en ordre, même de façon temporaire? Il se peut que ce soit plus facile que vous l'imaginiez. Comment pourriez-vous reprendre le contrôle de la situation si votre pire cauchemar arrivait ? Troisième étape, quels sont les résultats ou avantages à la fois temporaires et permanents des scénarios les plus probables ? Il y a le scénario cauchemar-cauchemar, mais il y a des scénarios un peu plus probables. Et quels sont les résultats ou avantages ? De manière positive, qu'est-ce que ça vous apporterait ? Quel serait l'impact de ces résultats probables sur une échelle de 1 à 10 ? 10 étant toujours le maximum. Si vous réfléchissez, quelle est la probabilité selon vous d'obtenir un résultat correct ? Est-ce que des gens moins malins que vous ont déjà tenté et réussi ? Quatrième étape qui se pose aujourd'hui. Si vous étiez renvoyé de votre travail aujourd'hui, que feriez-vous pour vous en sortir financièrement ? Imaginez ce scénario et reprenez les étapes 1 à 3. Si vous quittez votre emploi pour changer de voie, comment pourriez-vous reprendre le fil de votre carrière si c'était une nécessité ? Cinquième étape. Qu'est-ce qui va dans le sens de votre projet et que vous reportez aujourd'hui par peur ? Généralement, ce qui nous fait le plus peur est souvent ce qu'on a besoin de faire. Un coup de fil, une discussion, peu importe. C'est la peur du résultat inconnu qui nous empêche d'agir. Définissez le pire des cas. Acceptez-le et passez à l'action. Sixième étape, qu'est-ce que ça vous coûte financièrement ? Émotionnellement et physiquement de procrastiner, de ne pas vous lancer dans ce projet-là. En fait, il ne s'agit pas seulement d'estimer les inconvénients potentiels d'une action, c'est-à-dire de l'action de vous lancer, il faut aussi mesurer le coût de l'inaction. Si vous ne faites pas ce qu'il vous plairait de faire, où serez-vous dans un an ? Dans 5 ans ? Dans 10 ans ? Et mettez vous, à plus 10 ans, que ressentirez-vous quand vous aurez laissé filer 10 ans de votre vie en laissant les circonstances dicter votre sort et en faisant quelque chose qui ne vous épanouit pas ? Maintenant que vous avez évalué le coût de l'inaction, que vous avez peut-être pris conscience que certains des faux pas que vous envisagez dans votre pire cauchemar sont peu probables, ou du moins réparables, vers quel premier petit pas vous sentez-vous porté ? Alors, j'ai bien conscience qu'en écoutant un podcast, toutes ces questions, c'est un peu rapide comme débit et vous n'avez pas forcément le temps de bien faire l'exercice. Donc, n'hésitez pas à aller sur https:// lavieestuncompte.com pour me demander le bonus de l'épisode où j'ai formalisé tout ça pour pouvoir le refaire tranquillement. Alors maintenant, j'aimerais faire un tour du côté de l'entreprise comme j'aime le faire à chaque épisode. Et j'ai pensé à un outil un peu dans le même style que le scénario du pire de Tim Ferriss que nous venons de voir et qui s'appelle faire un pré-mortem d'un projet. Je trouve intéressant d'aborder un projet d'équipe en faisant cet exercice-là. Le pré-mortem a lieu au début et non à la fin d'un projet, de telle sorte que le projet peut être amélioré plutôt qu'analysé. Les post-mortem des projets, qui se pratiquent également et qui sont intéressants, vont avoir tendance à chercher le pourquoi, alors que dans un pré-mortem, on va chercher le quoi. Il s'agit là encore d'imaginer la pire situation possible. Donc, comment ça se passe concrètement? Vous réunissez l'équipe projet et vous démarrez la rencontre en déclarant que nous avons fait un saut dans le temps et que le projet, dans un an ou à l'échéance qui vous paraît raisonnable, le projet en question est un désastre absolu. Et vous demandez à vos collaborateurs de produire des raisons à cet échec. Chaque personne prend le temps d'écrire toutes les raisons imaginables qui pourraient expliquer l'échec du projet dans un an. Ensuite, on en vient à une phase de partage et on demande à chaque personne de donner, chacun à son tour, une des raisons écrites sur sa liste et continuer jusqu'à ce que tout le monde ait épuisé sa liste. Notez toutes les raisons sur le tableau. Ensuite, on passera à une étape de brainstorm des solutions, c'est-à-dire discuter ensemble des solutions que vous pouvez apporter aux problèmes potentiels qui ont été soulevés à l'instant. Et puis ensuite, pendant la durée de vie du projet, ça peut être intéressant de reprendre cette liste en revue et d'essayer de trouver des moyens de renforcer votre plan d'action. Cet outil peut servir d'un bon starter aussi pour échanger sur les règles qu'on se donne pour bien fonctionner ensemble tout au long de la durée du projet. Voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. Merci pour votre écoute. Arrive aussi la période des congés et je vous souhaite à tous de passer un très bel été. La vie est un conte fait une petite trêve estivale et j'aurai le plaisir de vous retrouver à nouveau un mardi sur deux à la rentrée. Je vous donne rendez-vous le 7 septembre où nous parlerons d'un corbeau et des cycles de la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestuncompte.com. À bientôt !